Somebody on the watch, you don't want to let it get down the butt, the mud, the water, the soap, the water, the mud, the party, the water, 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 the water. Grégoire Chamaillou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, chercheur au CNRS, et vous venez de publier aux éditions La Fabrique, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. Alors dans cet essai, vous remontez aux années 70, une époque où ça gronde de partout, où les femmes, les racisés, les ouvriers se rebiffent, vous dites, menacent de se rendre ingouvernables. Tous les ordres sont remis en cause, le capitalisme, le patriarcat, l'impérialisme. Et cette époque de contestation profonde est en fait extrêmement inquiétante pour les dominants, pour les classes dominantes, disons. Et vous êtes allé chercher comment les élites, disons, je ne sais pas comment on les appelait, les puissants, ont perçu ce risque et comment ils ont contre-attaqué. Alors vous, vous concentrez votre analyse sur la question de l'économie et de l'entreprise. Et donc, vous êtes allé voir comment les intellectuels organiques des milieux d'affaires ont mis au point des théories, des tactiques, des concepts pour neutraliser le danger et reprendre la main. Alors, bien sûr, on pense tout de suite à la doctrine néolibérale dont on entend souvent parler, mais on verra qu'il n'y a pas que ça. Et en tout cas, ça a assez bien fonctionné. Et là, aujourd'hui, on est encore en plein dedans. Et il n'y a pas de raison que les puissants ne poussent pas encore leur avantage. Donc c'est encore complètement pertinent aujourd'hui de regarder ce qu'ils ont mis au point. Alors avant de plonger dans l'analyse de ces théories et tactiques, j'avais une question par curiosité sur le choix de sujet. Parce que vos derniers livres, c'était « Théorie du drone » et « Les chasses à l'homme ». Comment est-ce qu'on passe de l'univers militaro-sécuritaire à celui de l'entreprise ?
Alors, l'unité de mes travaux, ce n'est pas celle d'un objet, celle d'une approche. Une approche dont la maxime ou le précepte serait celui de Georges Canguilhem, philosophe, mais aussi médecin et historien des sciences et des techniques, qui dit « La philosophie est une réflexion pour laquelle toute matière étrangère est bonne. » Il ajoute « On pourrait même dire une réflexion pour laquelle toute bonne matière est étrangère. » Ça implique quoi ? Ça veut dire que c'est une autre manière de faire de la philosophie que celle consistant à commenter les auteurs classiques de la tradition, aller chercher d'autres textes, former d'autres corpus sur des matériaux étrangers à la discipline pour, et c'est ça le fil conducteur général au-delà de la diversité des objets, mener des enquêtes historico-philosophiques sur les stratégies et les technologies de pouvoir.
Mais c'est vrai que c'est hallucinant de lire ces citations. En fait, si on ne les voyait pas, on pourrait vous traiter de complotiste. Parce que souvent, à gauche, on dit « ils font ça, ils font ça pour ça », mais on n'a pas finalement les preuves, alors que là, c'est vraiment écrit noir sur blanc. C'est vrai que ça produit un effet très, très fort.
Il y a un jeu d'écriture aussi.
Ouais.
Dans les premières pages de la situation de la classe laborieuse en Angleterre, Engels écrit la chose suivante, battre la bourgeoisie libérale avec ses propres déclarations. Bah, moi, j'ai pris ça, mais comme un principe de méthode, hein, c'est-à-dire aller chercher des énoncés qui permettent de battre l'adversaire avec ses propres thèses, avec son propre discours. Mais ceci dit, en étant très rigoureux, en appliquant des méthodes philosophiques à des discours qui peuvent être aussi bien ceux de flingueurs de syndicats, Union Busters, que de nobilisés ou récipiendaires de l'équivalent du prix Nobel d'économie. Un principe aussi de méthode, c'est tout lire, au sens, bon, l'exhaustivité est impossible, mais de ne pas accepter une délimitation entre le haut et le bas dans les énoncés légitimes. Ça vaut entre les auteurs, entre les registres de discours, mais aussi chez les auteurs eux-mêmes. J'étudie des articles de Jensen et Meckling, qui sont des grandes figures de l'économie néoclassique, nobélisées pour Jensen, sur le podium bibliométrique des articles les plus cités dans le corpus contemporain en économie. Mais on cite quoi d'eux ? On cite Theory of the Firm, qui est l'article phare, et un article assez sage. Mais à la même période, ils écrivent d'autres papiers, pas lus, quasiment pas lus, où ils donnent les motivations, les intentions. Il s'agit bien, en refondant une théorie de la firme, de défendre une institution qui est menacée, mais menacée dans sa survie même. Ils l'écrivent comme ça. 78, est-ce que l'entreprise va survivre? Réponse, on ne parierait pas là-dessus. On parierait pas là-dessus. À 10 ans, disent-ils, si les tendances existantes se prolongent, c'est quoi? Des mouvements écologistes, interdiction du DDT, figurez-vous. Des mouvements pour l'égalité, les mouvements féministes, les mouvements noirs, antiracistes, qui nous ont imposé quoi? Des mesures contre la discrimination à l'embauche? Ils empiètent sur la liberté d'entreprise? Si ça continue comme ça, et on associe à ça la régulation, la taxation étatique, alors on va où? On va dans le mur. On aura, un, disent-ils, des entreprises publiques, parce qu'elles auront été nationalisées, et des entreprises autogérées, qui seront passées sous autogestion ouvrière. Ces textes-là ne sont pas cités. Donc, littérature grise aussi, il s'agit d'aller voir dans les angles morts d'auteurs reconnus dont on retranche la partie aujourd'hui légèrement gênante, on comprend le geste d'élision ou d'occultation, mais qui permet de comprendre ce qu'ils font par ailleurs. Parce que ça donne, si on veut être fidèle en termes de commentaires de texte, appliquer une vraie méthode de commentaire philosophique, ça donne le projet. Et aujourd'hui, en économie, on enseigne ces nouvelles théories de la firme, mais comme des vérités tombées du ciel, neutres, objectives, alors que les auteurs eux-mêmes disent que la finalité, c'est du combat, c'est de la lutte. Bon, les lire et leur faire honneur, c'est leur restituer leur intention polémique et stratégique.
Alors, on va passer en revue les différentes difficultés auxquelles les entreprises ont senti qu'elles faisaient face et pour lesquelles elles ont élaboré leur stratégie de contre-attaque. Et donc, le premier défi, c'était l'indiscipline des travailleurs. Que ce soit vous décrivez bien des petits gestes pour voler du temps dans l'entreprise, à l'entreprise, dans l'usine, ou les grandes grèves. En tout cas, il y a ce problème d'indiscipline ouvrière. Comment est-ce qu'ils vont analyser cette situation et y répondre?
Alors, le contexte un peu plus général, ouais. Et là-dessus, on s'accorde aussi bien à droite, on y reviendra, mais c'est le texte de Samuel Huntington sur la crise de gouvernabilité des démocraties, et à gauche, Michel Foucault, sur l'idée qu'au début des années 70, on assiste, Foucault dit, à la naissance d'une crise de gouvernement. Alors, crise de gouvernement, ça ne signifie pas la crise du gouvernement-institution, la crise du Conseil des ministres, cette institution qu'on remanie éventuellement. Ça signifie de manière beaucoup plus large, dit-il, que l'ensemble des procédés par lesquels on conduit les hommes sont remis en question. Et partout, hein. Partout. Dans la rue, dans les familles, à l'université, sous les drapeaux, dans les asiles, dans les prisons, mais aussi, et ça, on l'a un peu oublié, hein, mais aussi dans les entreprises. Je veux dire, le début des années 70 aux États-Unis, c'est le pic de grève le plus important depuis l'après-guerre, depuis 1945. Il n'y a pas simplement ça, c'est-à-dire une combativité extrêmement forte, un rapport de force qui est favorable aux travailleurs et qu'ils utilisent pour lutter, il y a tout un continuum d'indiscipline. On a parlé aussi, alors là, de manière plus précise, dans l'entreprise, de crise de la gouvernabilité disciplinaire. Surveiller et punir, le grand texte de Michel Foucault, il est écrit en 1975, et on a parfois fait des contresens sur ce livre-là. On a pu penser, pu croire, que Foucault, en allant étudier la formation des disciplines au seuil de la révolution industrielle dans les ateliers, décrivait un état du présent. Comme si c'était toujours la forme fondamentale, non contestée, un pouvoir omnipotent d'emprise sur les corps. Mais quand il écrit ce texte-là, ça fuit de toutes parts. Indiscipline ouvrière massive, ça, très concrètement, ça signifie quoi ? Vous avez un turnover massif dans l'industrie aux États-Unis. Je cite un manager qui dit les jeunes gens qui viennent travailler, ils restent une semaine, ils partent dans la nature, et ils ne reviennent même pas chercher la paix auquel ils ont droit. Absentéisme. Les lundis d'été, dit-on, rapport interne de l'industrie automobile, 20% de travailleurs sont absents sans justification particulière. Un journaliste pose la question à un jeune ouvrier. Mais enfin, pourquoi ne venez-vous à l'usine que 4 jours par semaine? Il lui répond, mais enfin, si je venais 3 jours, je ne gagnerais pas assez pour vivre. Et puis, pas simplement ça. Les coups de pression, le pouvoir du contremaître, les consignes tatillonnes, tout ça, c'est refusé. Foucault dit la discipline, c'est l'emprise sur les corps. L'indiscipline, parce que c'est mon objet au début du livre, c'est un immense élan de déprise, prendre son corps et partir avec. Des grèves sauvages, du sabotage. Je rapporte la scène assez hilarante où des ouvriers, là aussi dans une usine automobile en 68 aux États-Unis, voient un nouveau moteur débarquer, conçu par les ingénieurs, par la direction, disent bon, ce truc, c'est vraiment, c'est ni fait ni à faire. Ils font des suggestions, mais parce qu'eux connaissent, ils savent ce que c'est qu'un moteur à la direction qui fin de non-recevoir, et puis commencent à oublier des pièces, une pièce, deux pièces. Et les moteurs défectueux s'accumulent dans l'usine à tel point qu'on ne peut plus circuler. Et voilà, sabotage. Mais l'idée derrière, c'est non seulement on refuse la discipline, mais on veut s'approprier le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on produit. C'est ça, l'élan est extrêmement puissant. Bon. Alors face à ça, comment on réagit ? Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options, mais il n'y en a aucune qui fonctionne vraiment, en fait. La première, c'est le serrage de vis. L'usine de Lordstown était le fleuron technologique de General Motors, des chaînes automatisées en grande partie. On en voit, au début des années 70, une équipe managériale de choc, qui a été décrite comme du management paramilitaire. On sac, on vire les gens, on accélère les cadences, on passe de 60 voitures par heure à quasiment le double. La chaîne coule, c'est-à-dire les ouvriers ne peuvent plus suivre le rythme, physiquement c'est très difficile. Ils sabotent, ou du moins la direction dit que c'est du sabotage, et le cycle de serrage de vis et de répression se poursuit. La réaction, c'est ce qu'on a appelé à l'époque un Woodstock industriel, une grève sauvage à Lordstown qui est la plus dure et la plus longue de l'histoire ouvrière américaine et qui contraint la direction à reculer. Vous voyez le problème. On a, et on le sait, le management le sait très bien, on a un refus de la discipline. On répond à ce refus de la discipline par un resserrement de la discipline. Celle-là même qui était refusée au départ. Resserrement qui produit un passage de l'indocilité ou l'indiscipline ordinaire à la révolte ouverte. On faisait tout ça pourquoi ? Pour des gains de productivité. Mais évidemment, vos gains de productivité sur votre chaîne parfaite, si les travailleurs se mettent à se mettre en grève, à saboter et à faire des grèves sauvages, eh bien, elle est nulle, voire négative. Où va-t-on si on poursuit dans cette voie ? Dans le mur. Il faut faire autre chose. Mais on est divisé. Ça répond un peu aussi à votre question de tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a des stratégies, mais ma thèse n'est pas du tout, ma vision des choses n'est pas du tout qu'il y aurait une sorte de comité central de la classe capitaliste qui tirerait les ficelles en haut lieu. Ce qui est intéressant, au contraire, c'est qu'on ne sait pas comment colmater les brèches. On se mobilise, on a des stratégies, mais en ordre dispersé, avec des conflits, des contradictions. C'est ça qu'il faut étudier. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est ça aussi qui peut donner des prises. Bon.
Ouais.
Alors, deuxième option. Un autre discours qui est celui des réformateurs managériaux, qui s'appuie sur une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est celle d'un psychologue qui s'appelle Abraham Maslow, c'est très célèbre, hein. Oui. La théorie de la pyramide des besoins. Qui dit quoi ? Qui dit, bon, les besoins humains sont étagés, et à partir du moment où les besoins élémentaires, les besoins physiologiques sont à peu près rassasiés, ce qui est relativement le cas dans ce qu'on appelle à l'époque, c'est Galbraith, la société de l'opulence, hein, eh bien, ça continue, il y a un enrichissement, une élévation des besoins humains. Les besoins humains, ce n'est pas statique. Plus vous donnez satisfaction, plus le désir augmente, et plus surtout, il monte en qualité. Passage du besoin quantitatif au besoin qualitatif. Une fois qu'on a le ventre plein, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, on veut s'émanciper, on veut des relations humaines riches, on veut de la créativité, on veut tout ça. Ce dont témoigne, dit un article de la Harvard Business Review à l'époque, le fait que des centaines de milliers d'Américains vont vivre des expériences de vie commune, dans les communes précisément. Mais vous voyez, le fond de l'affaire ici, si on pense ça, ça veut dire que la société de consommation capitaliste, en rassasiant les besoins élémentaires, en enrichissant les désirs et les besoins, y compris des travailleurs et des plus pauvres, court à sa perte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un différentiel de vitesse entre cet enrichissement des besoins et ce que les formes du travail industriel aliéné sont capables d'offrir en face. Et de ce télescopage, de ce clash, naît la situation de crise de gouvernabilité disciplinaire. Alors, la question, qui est posée donc, par ces revues managériales, mais même par le Congrès à l'époque, en 72, que faire contre l'aliénation du travailleur ? C'est un moment extraordinaire quand même. Quand on trouve ça dans les sources, on est assez content. On reprend les formulations du jeune Marx 1844 au sommet des classes dirigeantes et du business américain en 72. Bon, alors, mais le problème, c'est qu'il faut définir l'aliénation. Ce n'est pas la définition de Marx, hein, elle est beaucoup plus gentillette. Mais... Donc, on conduit des enquêtes, sondages. On demande aux gens si votre vie était à refaire. Si vous deviez repartir à zéro, est-ce que vous rempileriez ? Est-ce que vous referiez journaliste ou pas ? Est-ce que vous referiez OS dans l'automobile ? Résultat de cette étude des années 60, quelque chose comme 93% des professeurs d'université disent « ouais, on recommence », et 16% seulement des OS disent « on recommencerait la même vie ». La conclusion qu'on en tire, c'est en postulant que la volonté à rempiler est un indice de la non-aliénation. C'est un travail aliénant. OK, il y a la pénibilité physique, c'est très important. Mais il y a surtout autre chose, c'est l'autonomie. La capacité à organiser son temps et ses activités. Pas avoir de chef. D'où la réponse. Comment faire pour neutraliser les indisciplines ? Eh bien, il faut changer l'art de gouverner le travail, passer du contrôle externe à l'autocontrôle, passer de la discipline à l'engagement, et on reprend dans les années 70 toute une série de travaux et de thèses qui étaient déjà là dans la psychologie du travail des années 50 et 60. Et faire ça, ça nous ferait passer de ce qu'on appelait les relations industrielles, c'était le mot pour ça, pour le management du travail, penser comme une diplomatie interne à l'entreprise, fondée sur la négociation, à autre chose, qui va être les ressources humaines. Et la métaphore est très intéressante. Vous voyez, dans le premier cas, le serrage de vis, on dit on va presser le citron, hein, et on va extraire le jus. Là, on dit non. Regardez, il y a des ressources, des gisements inexplorés qui nous attendent si nous avons le bon art de l'exploration et de l'extraction. Hein. En motivant, en faisant valoir l'autonomie, on va pouvoir capter ce qui nous échappait. Non pas presser, mais étendre encore l'emprise avec le paradoxe que cette extension de l'emprise se fera par un prétexte d'autonomisation, de participation, mais qui sera toujours, évidemment, dans l'hétéronomie, elle sera factice et instrumentale. Et il y a des expérimentations en ce sens. L'usine de Topeka, dans le Kansas, usine de croquettes pour chiens, General Food, où, sur initiative patronale, c'est une expérimentation, on fait des équipes autogérées, on lâche la bride aux salariés, et miracle, la productivité augmente enfin. Conclusion de ces réformateurs managériaux, c'est win-win. La productivité augmente, l'aliénation diminue, allons-y. Adoptons un modèle suédois, personne n'a à y perdre, tout le monde n'a qu'à y gagner. Sauf que dans l'histoire, il y a au moins un groupe social qui a à y perdre, et ce sont les managers. Bill Watson, qui est un ouvrier militant des années 60, raconte une anecdote très révélatrice de ce point de vue-là. Arrêt de la production, chômage technique, inventaire dans la boîte. Le management a défini une procédure pour réaliser l'inventaire avec des ouvriers qui, donc, eux, ne seront pas au chômage technique, mais seront payés pour rester dans l'usine. Bon, les gars, ils regardent ça, ils disent, bon, c'est n'importe quoi, on va se faire, nous, un inventaire autogéré, comme ça, on va rentrer plus vite chez nous. Tant pis, on n'aura pas le salaire supplémentaire. Ben. Ils font ça, ils auto-organisent l'inventaire. Et c'est 10 fois plus efficace que ce que la direction avait prévu. Quelle est la réaction du management ? C'est « on arrête tout de suite ». On arrête tout de suite, vous avez dépassé, vous avez mis en péril nos prérogatives, qui sont le contrôle, celle du contrôle managérial. Ça, c'est un petit exemple qui ne vaut pas de démonstration, mais qui est très instructif, parce que c'est un exemple dans lequel, à rebours de la pure logique d'efficience économique, c'était beaucoup plus rationnel pour le management de les laisser faire leur truc, repartir chez eux et de les payer moins, que de mettre un coup d'arrêt à l'expérimentation spontanée pour réaffirmer leur autorité. Sauf que ce qui est en jeu, c'est précisément leur autorité. D'où le problème, le second problème. Le serrage de vis, ça produit de la révolte, mais l'ouverture à la participation, même factice, même tactique, si on commence à faire ça, où ça s'arrête? Loup dans la bergerie, pente glissante, effet domino possible? Que faire?
Il faut une troisième solution.
Il faut une troisième solution. Il faut une troisième solution. Alors d'où ça va venir? On bricole dans ces années-là des théories de la révolte. Pourquoi? Ça, c'était une surprise finalement. Dans cette société de consommation où, comme le disait Daniel Bell dans les années 60, on avait enfin réussi, croyait-on, à domestiquer le travailleur américain, comment se faisait-il que, malgré tout, l'impensable se produise? Alors, je cite dans le texte une phrase d'un manager de Ford, qui s'appelle Malcolm Denise, qui dit, bon, on nous dit qu'il y a de l'aliénation au travail. Oui, mais enfin, les parents de ces gens-là, de cette génération, ils acceptaient, ils serraient les dents, et voilà, quoi. C'est pas plus aliéné aujourd'hui le travail qu'avant. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que dans ces jeunes générations, on a un trop faible niveau de tolérance à la frustration. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et cette phrase-là, si on cherche un peu, elle vient de la psychologie américaine. On a fait, dans les années 30, aux États-Unis, des expériences sur des jeunes chimpanzés, qu'on avait peu frustrés dans leur enfance, dans leur jeune âge, et qui, devenus adultes, manifestaient des colères, avaient des comportements de révolte ou d'indiscipline. Bon, c'est une théorie de l'enfant gâté. Vous voyez, ce qu'on dit, c'est pas que les conditions du travail sont trop dures, c'est que la société est trop molle. Il y a une kyrielle de citations de ce genre-là. On dit, le problème, c'est que ils n'ont pas appris à avoir peur. Ils n'ont plus peur. La crise de 29, c'est loin. La mémoire sociale de ce que ça pouvait être qu'une grande récession avec son cortège de catastrophes sociales, la faim, la peur du déclassement, le chaud, c'est derrière nous. On est dans une situation de quasi plein emploi. Et d'ailleurs, bon, je trouve des citations d'ouvriers de Détroit qui disent ben, « Ils pouvaient nous virer, on s'en fout, de toute façon, on trouve un boulot dans la journée, c'est pas un problème, en fait. » Vous voyez, quand la pression extérieure sur le marché du travail décroît, alors la propension à se soumettre à une discipline interne au-dedans, dans l'entreprise, elle-même a du plomb dans l'aile. Et du coup, la question, ça va devenir, c'est très simple, comment restaurer la peur? Comment rétablir un plus haut niveau de tolérance à la frustration? Ça va passer par une stratégie, elle aussi théorisée, de retour à des sociétés de l'insécurité sociale et économique. D'autant que, à partir de la fin des années 60, quelque chose se produit dont on a parfaitement conscience dans les élites économiques, dans la presse économique, c'est avant même le choc pétrolier, une contraction du taux de profit, le profit squeeze. Et là, c'est frappant de voir comment très vite, ça on peut le voir dans une série d'articles parus dans le magazine Fortune à l'époque, très vite on bricole une théorie, ou plutôt une idéologie, de la crise de profitabilité. Et cette théorie dominante-là, elle dit quoi? Elle dit si la profitabilité baisse, en gros, c'est la faute aux travailleurs. Les syndicats sont encore assez forts pour arracher des augmentations de salaire et donc participer à une inflation galopante. Et dans le même temps, étant donné qu'il y a un rapport de force favorable aux travailleurs, la productivité marque le pas, sa croissance se ralentit. Et ces deux facteurs combinés, ça produit une érosion des profits. Il y a évidemment bien d'autres explications à la contraction, mais vous voyez, ce qui importe, c'est qu'aux yeux des élites économiques, cette situation ne pouvait plus durer parce que c'était la raison identifiée d'une attaque au portefeuille, en plus du reste. Hein. Oui. Et la racine de ça dans ces analyses, qu'est-ce que c'est? C'est l'État-providence de l'après-guerre, avec trois piliers qu'il s'agit de mettre à bas, si on veut renverser la tendance, un, l'engagement au plein emploi keynésien, deux, la protection sociale. Et il y a des phrases géniales que je cite dans le bouquin, c'est évidemment, ils peuvent se mettre en grève, parce que même s'il y avait du chômage, ils auraient un filet de protection. Et trois, la puissance des syndicats. C'est ces trois piliers-là qu'il faut absolument abattre. Pour ce qui est des syndicats, je cite les théories élaborées de longue date par les économistes néolibéraux dès les années 40, qui parlent du syndicat comme un instrument de fixation monopolistique des salaires, et qui ajoutent, face au monopole, il faut restaurer la discipline de la concurrence. Vous voyez, il y a la discipline verticale, celle qu'a étudiée Foucault dans les milieux clos de l'usine, et il y a d'autres modalités de la discipline fondées sur l'insécurisation sociale et économique et sur la concurrence de marché. Et j'étudie aussi, au niveau micro, au niveau des entreprises elles-mêmes, comment, dans ces années-là, se développe une nouvelle industrie florissante, celle des flingueurs de syndicats. J'ai retrouvé des textes qui décrivent par le menu les séminaires qu'ils organisent pour les managers, qui sont tragicomiques parce que c'est à la fois violent, méchant et d'une bêtise crasse, qui détaillent toutes les manœuvres, y compris de ciblage des faiblesses psychologiques, de détection des individus qui pourraient avoir des propensions syndicales, mais aussi de contre-propagande dans l'entreprise. Un exemple, dans ce type de manuel, on conseille aux chefs d'entreprise de placarder des affiches contre les syndicats. Il y a des modèles qu'on peut polycopier dans les livres que ces gens-là éditent et publient. Mais aussi, une bonne idée, ce serait de faire des fortune cookies, vous voyez, des gâteaux chinois. Crac, on l'ouvre la cantine et on déroule. Et un des textes proposés par ce manuel génial de lutte contre les syndicats, c'est « Le syndicaliste vous pique votre bol de riz ». Voilà, ce type de choses-là. Des choses vraiment ridicules et d'autres qui le sont, et un peu drôles, et d'autres qui le sont bien moins, parce que casser les syndicats, ça signifie briser non seulement des carrières, mais des vies. Des vies, et ça a été le cas. Ça a été le cas. Et c'est malheureusement encore le cas.
Oui. Oui, ça a été très efficace de faire jouer l'insécurité extérieure aussi, de laisser faire la crise, en fait, aussi, le chômage, pour que donc, les salariés aient de nouveau peur. Mais il n'y a pas que les salariés en bas de la hiérarchie qui étaient un objet de préoccupation pour les milieux d'affaires, il y avait aussi ceux en haut de la hiérarchie, les managers, les cadres. Pourquoi est-ce qu'eux aussi représentaient un sujet de préoccupation ?
Ouais, alors, le plan que je suis dans le livre, c'est à partir de l'idée que l'entreprise est un gouvernement privé, les crises qui affectent chaque strate ou chaque niveau de gouvernement. Donc premier moment, on vient de le voir, c'est la crise du gouvernement du travail. Ouais. Et il y en a un deuxième, c'est une crise liée à ce qui a pu être appelé dans les années 40 par James Burnham, la peur, la crainte, fondée ou infondée, d'une révolution managériale.
Ouais. Bon.
Ça, c'est d'abord une crise théorique. On parle même à l'époque de crise théologique, au sens où ce qui est remis en question, c'est un dogme fondateur du libéralisme au sens classique du terme, c'est-à-dire une crise qui affecte, dans son principe même, la justification de l'ordre capitaliste tel qu'elle avait été fournie pendant deux siècles par l'économie. D'où ça vient ? Dans le livre, 1932, co-signé par Berle et Mintz, L'entreprise moderne et la propriété, un livre qui a polarisé l'ensemble des discussions pendant à peu près un demi-siècle aux États-Unis sur l'entreprise. Il remarque une chose simple, c'est que dans l'entreprise moderne, il y a une séparation entre propriété et contrôle. Ça signifie quoi ? Séparation entre des fonctions qui étaient antérieurement réunis en un seul agent, une seule personne. Si vous pensez à la figure du patron paternaliste du 19e siècle, il est propriétaire et gestionnaire de sa boîte. Dans le cas des grandes sociétés par action, rien de tel. Vous avez des managers, des gestionnaires qui ont le contrôle de l'entreprise, et vous avez des actionnaires qui sont propriétaires de l'action, du titre. Mmh. Hein. Séparation entre les deux. Et ces propriétaires, de quoi sont-ils propriétaires ? De titres. C'est une propriété de papier. Et puis, ils ne sont pas propriétaires que d'un seul titre, mais ils ont portefeuille. Et l'entreprise elle-même n'est pas liée à un seul actionnaire, mais à une multitude, qui sont en flux permanent. Vous voyez, dématérialisation, fragmentation, fluidification de la propriété, à tel point que si une action ne vous va pas, vous pouvez la liquider. Alors ça, en quoi ça pose un problème théorique ? Ben, Berle et Mintz, ils disent que ça pose un problème parce que la justification pour la propriété capitaliste, depuis Adam Smith, elle se fait au nom de l'efficience productive. Et il cite le texte fameux, La main invisible. Les riches suivent leurs intérêts égoïstes, et par cupidité, une sorte de ruse de la raison se produit, qui fait qu'en s'enrichissant, mais parce qu'ils sont propriétaires de l'objet de la propriété, de l'objet productif de richesse et de valeur surtout, eh bien, en poursuivant leur propre objectif de cupidité personnelle, ils contribuent à la prospérité générale, parce qu'ils sont poussés par cet appétit personnel, individuel, égoïste, à maximiser l'exploitation de l'objet de la propriété. Et Smith rappelle Berle et Mintz, repère, alors que c'est un phénomène seulement émergent au XVIIIe siècle, un cas où son schéma de la main invisible ne fonctionne pas. Et ce cas, c'est l'ancêtre précisément des sociétés par action, dans lesquelles les gestionnaires ne sont pas propriétaires et ont par conséquent moins d'incitation à suer sang et eau pour maximiser les profits d'autres qu'eux-mêmes. Ça, c'est une remarque très simple. Autrement dit, disent Berle et Mintz, ce que présuppose le théorème de Smith, c'est qu'il y ait unité de la propriété et du contrôle. Or, on se trouve dans une situation où la forme dominante de l'entreprise, elle se fait sur le fond de la dissociation des deux. Ça implique beaucoup de choses, mais notamment ceci, que vous ne pouvez plus dire, c'est une critique interne hein, à la théorie, c'est pas du tout une critique de Smith, ils disent Smith avait raison, il avait raison de voir les limites de sa théorie, sauf que là on y est. C'est-à-dire que le mouvement même du capitalisme, dans sa révolution des formes de la propriété, a produit la situation dont Smith disait que c'était précisément l'échec, le point limite auquel sa théorie ne s'appliquait plus. La conséquence, c'est que vous ne pouvez plus dire qu'il n'y a qu'à poursuivre ses intérêts égoïstes pour que tout fonctionne dans le meilleur des mondes. Dans ce schéma-là, on ne peut plus dire, à l'intérieur de cette théorie, qu'il suffirait que les managers suivent leur soif égoïste pour le profit. Parce qu'alors, que va-t-il se produire ? Au mieux, un manque de zèle. Au pire, qui tape dans la caisse, l'abus de bien social. Hein, parce que l'intérêt bien compris, c'est effectivement pas de travailler pour les actionnaires, disent-ils. Crise complète. Remarque simple, factuelle, et la justification s'effondre. À tel point qu'en 1975 encore, Irving Kristol, qui est le parrain, on l'a surnommé comme ça, le parrain du néoconservatisme américain, peut dire « Aujourd'hui, il n'y a aucune justification théorique recevable pour la forme dominante de l'entreprise aux États-Unis. » C'est quand même étonnant. C'est un petit peu comme si vous étiez au milieu du Moyen-Âge et qu'on vous dise on n'a pas de théologie, quoi. Il y a l'Église, il y a l'institution, c'est l'institution dominante de la société, mais on ne sait pas vous expliquer pourquoi c'est justifié qu'il y en ait. Et on s'aperçoit même que la justification bien calibrée qu'on avait, elle ne marche plus du tout, de l'aveu même de son auteur phare et de son fondateur. C'est vraiment pas une paille, et on va sérieusement se gratter les méninges pour trouver des solutions. Alors, pour Berle et Mintz, quel type de problème ça ouvrait ? Très simplement, ça veut dire que la réponse ne peut plus être « il faut que les managers suivent leur intérêt personnel ». Mais alors du coup, les intérêts de qui doivent-ils suivre ? Il y a deux options. La première, c'est de dire « ils doivent suivre les intérêts des actionnaires ». Mais, ajoute-t-il, il y a quelque chose d'autre qui a changé. C'est plus vraiment des propriétaires, ces actionnaires. ils sont des propriétaires absentéistes. Qu'est-ce qui va fonder leur droit à réclamer la part du lion dans les profits? Alors que franchement, c'est des rentiers. Bon. Et puis il y a un deuxième phénomène, c'est que les grandes entreprises actionnariales, ce sont, disent-ils, des entreprises quasi-publiques. Elles sont gigantesques. Elles ont, sous leur commandement, des milliers, des dizaines de milliers, voire parfois des centaines de milliers de travailleurs. Et surtout, leurs décisions ne sont pas simplement des décisions productives, internes. Elles impactent les vies de tous. C'est du gouvernement privé des affaires publiques. Ne serait-ce que par leurs impacts. On peut penser à la question des impacts écologiques de l'entreprise, mais pas seulement. Ce qui veut dire que non seulement les prétentions des actionnaires à être les bénéficiaires principaux des profits s'affaiblit, mais que surtout va monter en puissance une revendication de la société à ce que ces entreprises quasi-publiques soient gouvernées au bénéfice de tous. Ça pose, si vous voulez, un problème qui concerne les finalités de l'activité économique, les finalités mêmes. Et ça ouvre tout un débat sur la responsabilité sociale des entreprises, sur ce que c'est dans son organisation une entreprise, sur la question de la démocratie. Voilà. Pour les néolibéraux, cette question-là, qui est celle en réalité de la légitimité du pouvoir managérial, elle ne se pose pas. Et ils vont relire, en le réduisant complètement, le problème de Berlemins comme ce qui va être appelé le problème de l'agence, qui peut se résumer de la manière suivante, c'est des économistes dans les années 90 qui le définissent comme ça, comment faire en sorte de forcer les managers à rendre l'argent aux actionnaires.
Et alors, c'est quoi? C'est alignement, leur filer des stock options et faire que leur intérêt soit aligné sur celui des actionnaires?
Oui.
Oui.
Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, mais là encore, la solution n'est pas évidente à l'époque.
Oui.
Alors, le problème qui se pose, c'est comment discipliner les managers.
Oui.
Évidemment, là derrière, c'est aussi comment discipliner l'ensemble de la chaîne hiérarchique, oui, sous les managers, les travailleurs. Comment faire? Comment réaligner les intérêts du management sur ceux du marché actionnarial? Finalement, ça se résume à deux grandes options, la carotte et le bâton. Alors la carotte d'abord, ça c'est un économiste britannique, Robin Maris, qui s'en aperçoit dans les années 60, qui dit attention, aux États-Unis, il y a toute une série d'économistes néoclassiques qui sont en train de conseiller, de préconiser une transformation de la structure des rémunérations des hauts dirigeants d'entreprise. Faire la part belle dans le revenu à autre chose que du salaire. Et dit-il, après avoir fait le compte-rendu du problème de la séparation du contrôle, il est possible qu'une telle réorientation résolve en partie la contradiction qui a été repérée. Que ça réaligne, par l'incitation positive, la conduite managériale sur le profit actionnarial. Et puis, il y a le bâton. Et ça, ça va être une vraie découverte qui est faite par un personnage trop négligé, je pense, dans cette historiographie, qui s'appelle Henri Manny, qui est l'un des fondateurs du courant Law and Economics, l'analyse économique du droit, qui repère un phénomène, lui aussi inaperçu, qu'il va appeler le marché pour le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, pour Berle et Mintz, du fait de cette séparation, les managers ont une grande latitude. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils sont plus sous contrôle, eux. Manny dit non, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a un mécanisme que Berle et Mintz n'ont pas vu. Alors, regardez par exemple ce qui se passe dans le cas des offres publiques d'achat. On rachète des actions sur le marché secondaire en promettant à ceux qui vont les vendre de les acheter à un prix supérieur au cours du marché, à condition qu'on en ait réuni un certain nombre, suffisamment pour avoir la majorité ou du moins pour pouvoir prendre le contrôle de l'entreprise, à l'Assemblée générale des actionnaires. Mani demande, mais pourquoi est-ce qu'on paye plus que le cours dans ce cas-là? Quel est l'objet de la transaction? C'est quoi? C'est pas juste le droit de percevoir éventuellement des dividendes, c'est le droit de vote. Ce qui explique le différentiel, c'est que, en plus de la dimension spéculative du marché boursier, il y en a une autre dimension qui est celle du pouvoir. On achète du pouvoir. Et il y a un marché du pouvoir qui fonctionne comme tel, encastré dans le marché spéculatif. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce marché du pouvoir, il fonctionne comment, dit-il? Eh bien, c'est simple. Mettez-vous à la place d'une équipe de direction d'entreprise, hein, d'un PDG. Vous surveillez, comme le lait sur le feu, le cours de l'action. Pourquoi? Parce que s'il plonge, des équipes managériales concurrentes peuvent mener des raids hostiles, racheter des actions et vous évincer de votre poste. Autrement dit, il y a une épée de Damoclès, parce que le marché spéculatif est aussi un marché du contrôle, qui pèse sur les directions d'entreprise pour les réaligner par la sanction, négativement, sur la valeur actionnariale. Voilà ce qu'il remarque. Mais ces gens-là ne sont pas que des analystes. Il s'agit d'analyser ce qui se passe, comment ça marche, mais aussi, et en même temps, de prescrire comment ça doit marcher. Avec un paradoxe, parce que ces gens-là vont militer très activement pour la dérégulation des marchés boursiers, c'est eux qui sera fait. Mais le paradoxe, c'est le suivant, c'est que à la fois, on nous dit, regardez, en fait, il n'y a pas de latitude managériale, il n'y a pas de désalignement, parce qu'il y a des procédés négatifs qui, par la sanction ou la menace de la sanction, réalignent les managers, et à la fois, il faut déréguler les marchés financiers. Pourquoi faire? Ben, pas juste réaligner le management, mais pour le suraligner encore. Ce qui est fait en 81, William Baxter est nommé par Reagan et opère cette dérégulation. Le marché pour le contrôle, d'analyse théorique, devient une réalité, et une réalité extrêmement dure. C'est la phase des fusions-acquisitions, c'est la phase où cette classe ouvrière américaine, qui était, souvenez-vous, si remuante, si indisciplinée, est mise sur le carreau par une immense violence sociale, verrouillée par le haut, par un gouvernement des marchés qui gouverne quoi? Qui gouverne les gouvernants eux-mêmes. Et là, vous avez, pour conclure là-dessus, l'emmanchement d'une discipline de marché et d'une discipline interne à la boîte. Parce que, évidemment, ce que Hayek appelle la catalaxie, c'est-à-dire la sphère de l'échange, dont il dit qu'elle supprime et remplace l'oeconomia, c'est-à-dire l'économie comme forme de domination privée et art du maître et de la domination, les deux, l'un ne se substitue pas à l'autre, contrairement à ce qu'il dit, l'une s'assujettit l'autre pour que leurs effets se redoublent. Il y a à la fois une discipline du marché et une discipline interne qui est branchée sur elle.
Alors on va passer à l'autre niveau encore, enfin, je ne sais pas si c'est un autre niveau, mais c'est encore une autre menace en tout cas, perçue comme telle par les classes dominantes. C'est la contestation qui vient pas forcément de l'intérieur de l'entreprise, mais de l'extérieur, de la société civile ou des mouvements sociaux, des mouvements écologistes. Et là, c'est moins une question de réélaborer une théorie néolibérale, par exemple, de l'économie. C'est vraiment un savoir-faire très concret qui va se développer, très pratique. Justement, alors là, je repense à théorie du drone, parce qu'on est quasiment dans une réflexion militaire, contre-insurrectionnelle. Comment faire pour neutraliser les contestataires, les identifier, les classer? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça? Comment ils vont être gérés?
Oui, et pour faire la transition, la réponse néolibérale dans les théories de la firme va consister à dépolitiser et même à déréaliser l'entreprise. Ouais. Alors, quand on disait au début qu'il y a des contradictions, qu'il n'y a pas d'unité doctrinaire absolue dans cette contre-offensive, là, ça apparaît très clairement, parce que le paradoxe, c'est qu'au même moment où on construit des théories dépolitisantes et déréalisantes de la firme dans le pôle économique de la contre-offensive, d'autres conseille les entreprises en la concevant non pas comme un nexus de contrat, non pas comme une fiction juridique, mais au contraire, comme une machine de guerre. Ouais. C'est-à-dire que, très concrètement, dans une situation, celle que vous évoquez, où les directions d'entreprise sont directement ciblées, non plus par un conflit social interne, qu'on sait à peu près manager, on a l'habitude, mais par de nouveaux entrants qui développent des conflits sociaux externes depuis une autre position que d'être les salariés de l'entreprise, on ne sait pas réagir. Et on a beau avoir ces théories économiques qui nous disent que, en gros, l'entreprise n'existe pas, ça, c'est de peu de secours quand il s'agit d'un conflit ouvert qui menace très directement vos intérêts, par exemple sur un marché. D'où la nécessité de recourir à d'autres services, d'avoir des gens qui vous fournissent des concepts opératoires pour penser le conflit, ce que la théorie néolibérale économique est à peu près, et de son aveu même, incapable de faire. Alors, exemple concret que j'étudie dans le livre, c'est l'affaire Nestlé. Début des années 70, des nutritionnistes sonnent l'alarme. Nestlé vend dans les pays du tiers-monde du substitut de lait maternel en poudre à des populations qui, bien souvent, ne peuvent pas lire le mode d'emploi, n'ont pas accès à de l'eau potable, et ça se traduit, disent-ils, par des phénomènes extrêmement inquiétants de surmortalité infantile. Cette information, elle est reprise par des groupes activistes en Grande-Bretagne qui publient une brochure qui s'appelle « The Baby Killer », le tueur de bébés. Brochure traduite en allemand par des petits militants suisses, un groupuscule. Le siège de Nestlé est à Vevey, en Suisse. Et quelqu'un tombe sur cette brochure. Réaction pavlovienne, procès. Erreur. Parce qu'alors, cette brochure confidentielle, et qu'il serait sans doute à peu près resté, trouve un écho planétaire. Quelques années plus tard, des activistes américains lancent une campagne de boycott à laquelle se joignent, de par le monde, des centaines d'organisations. C'est l'un des premiers boycotts internationaux à cette échelle et de cette ampleur contre une multinationale du Nord, dans un schéma extrêmement intéressant. Vous voyez, un des auteurs que je cite, qui a étudié lui en détail cette controverse, parle d'un phénomène où se combinent la biopolitique et les rapports Nord-Sud. C'est vraiment ça. Hein. Se mobiliser en tant que consommateur au Nord contre une politique mortifère d'une multinationale du Nord au Sud. Comment est-ce que Nestlé réagit? Ils ne savent pas. Ils sont démunis. Cette campagne qui prend de l'ampleur a des coûts financiers pour eux, mais aussi des coûts psychologiques. À un moment, ils pensent recourir au service d'un psychanalyste pour régler le problème de l'abattement dans lequel cette accusation plonge les managers de la boîte. Vous pouvez aussi trouver, ça c'est une vidéo en ligne, une archive vidéo, au moment de la controverse et du boycott, le PDG de Nestlé qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Arthur Führer, accepte un dispositif où il est en direct à la télévision suisse, dans un amphi universitaire, seul, face à un public d'étudiants contestataires. Et vraiment, la séquence vaut le détour, en fait. Pour vous dire, parce qu'aucun PDG, aujourd'hui, n'accepterait un dispositif de ce type-là. Enfin, je veux dire, non. Impréparation complète, désarroi, on est démunis. Ça dure quelques années, jusqu'à ce que la direction de Nestlé s'adresse à quelqu'un qui a déjà commencé à se faire une petite réputation de conseil aux entreprises en gestion de crise. Il s'appelle Raphaël Pagan, c'est un ancien du renseignement militaire américain, à haut niveau, il participait au briefing présidentiel, il a travaillé déjà pour des industriels, et il réunit une petite équipe qui va être chargée d'imaginer une contre-offensive. Comment reprendre la main face au boycott sur la campagne « Nestlé tue les bébés ». Alors, j'ai retrouvé des archives très très intéressantes où quelques années après le boycott, Douglas Johnson, qui était un des animateurs de la campagne activiste, rencontre au Brésil Mongoven, qui était le bras droit de Pagan. Ils dînent La discussion se prolonge toute la nuit, ils boivent du vin. Et Johnson, on ne sait pas s'il avait un magnétophone ou pas, mais en tout cas, il fait un compte-rendu extrêmement détaillé de toute la conversation où Mongoven lui explique comment ils ont formé leur stratégie. Alors, il lui dit plusieurs choses, mais la première, c'est, et Pagan dit la même chose, c'est la grosse différence entre Nestlé et vous, c'est que vous, vous saviez que vous faisiez de la politique et vous aviez une stratégie. Eux, ils ne le savaient pas, ils n'en avaient pas conscience. Or, si on veut l'emporter sur vous, il faut que le business ait conscience qu'il fasse de la politique et qu'il ait des stratégies. Et il lui raconte une anecdote. Le premier jour, dans cette cellule de crise là, montée pour défendre Nestlé, Mongoven, lui, vient de la politique partisane. Il a été conseiller en communication pour le Parti républicain et journaliste. Et Pagan, c'est l'armée. Bon. Le premier jour, Raphaël s'absente, et nous, on était dans la pièce en train de remplir les murs de graphiques, d'éléments de langage, etc. Et moi, dit Mongoven, je marque au tableau les principes de Clausewitz. Et Pagan revient dans la pièce, il lui dit, mais enfin, tu sais que c'est les principes de Clausewitz. Je lui dis, oui, bien sûr, je l'ai étudié pour les campagnes politiques. Il dit, mais c'est comme ça qu'on a compris qu'on pouvait travailler ensemble. Ce qui se produit là, vous voyez, dans cette espèce de start-up de la contre-insurrection, ça va être une hybridation de savoir-faire d'origines différentes. La politique partisane, l'analyse de marché, de management stratégique, et les doctrines stratégiques contre-insurrectionnelles. Alors de Clausewitz, qu'est-ce qu'ils retiennent ? Une idée fondamentale qui est que la force militaire, les moyens matériels ne suffisent pas à définir la puissance de guerre. Que la puissance dont on dispose, elle est démultipliée d'un côté les forces matérielles et de l'autre, quoi ? Ce que Clausewitz appelle la force morale, qui recouvre à la fois la volonté, la détermination, mais aussi distille, bon, c'est une réinterprétation, ça s'appelle une lecture fidèle, mais aussi la crédibilité, la légitimité de l'adversaire. Et l'énigme à résoudre, c'est comment se fait-il que de petits groupes militants, sans ressources, ou à peu près, toujours au bord du burn-out, minoritaires, parviennent à menacer un empire industriel qui a des ressources incomparables. Comment expliquer une situation qui est celle d'un conflit asymétrique ? Leur réponse à ces gens-là, la stratégie qu'ils vont mettre en œuvre pour Nestlé, le principe c'est « vous avez les ressources, ils ont les gens ». Et ils ont les gens parce qu'ils ont une force morale, parce qu'ils ont de la crédibilité. Et donc, la stratégie, schématiquement, ça va consister à les priver de leur force morale, user leur volonté, et détacher d'eux, méthodiquement, les blocs de crédibilité. Et pour cela, on invente une typologie des opposants. Alors, on la connaît parce que l'un des membres de la bande à Pagan a donné un discours devant l'Association américaine des éleveurs de bétail dans les années 90 et que l'association en question a reproduit des parties du discours dans sa lettre pour ses adhérents. Bon. Il leur dit quoi ? Il faut connaître l'ennemi pour arriver à le défaire. Or, invariablement, les activistes se répartissent en quatre cases. Vous avez d'abord, les radicaux. Eux, ils veulent changer le système. Avec eux, rien à faire. Il faut les isoler. Vous avez ensuite les idéalistes. Eux, ils sont dangereux parce qu'ils croient en ce qu'ils racontent. Mais ils sont faibles parce qu'ils sont crédules. Cela, on peut, dit-il, les rééduquer. Et c'est un travail, ajoute-t-il, qui demande beaucoup de patience de la part du rééducateur, donc les boîtes. Comment est-ce qu'on rééduque un idéaliste ? Tactique simple, lui montrer que les mesures qu'il pense être bonnes vont avoir des effets qui vont affecter d'autres groupes minoritaires, produire un dilemme, une contradiction morale en lui, et alors vous le désactivez et vous pouvez le ramener du côté du bien corporate. Les réalistes, eux, c'est du pain béni, ils ne cherchent pas à changer le système, ils veulent travailler avec vous, il faut dialoguer, monter des partenariats, Et vous pouvez être sûr que la solution qui aura été négociée en amont avec les réalistes, si c'est elle qui l'emporte, vous assurera le deal final. Reste le quatrième groupe, les opportunistes. Eux, on les avalera dans la manœuvre. Vous voyez, ça correspond au principe. L'idée générale, c'est il vous faut isoler les radicaux, et ça vous le faites en créant de la division, en cooptant les réalistes, en rééduquant les idéalistes et en avalant les opportunistes.
Ouais, c'est très efficace. On le voit, en fait, on le voit encore aujourd'hui, ça s'applique encore. À chaque fois que je vous le disais, je me demandais, est-ce que ceux qui appliquent ça aujourd'hui, ils savent, vous n'avez sans doute pas la réponse, mais est-ce qu'ils savent que ça a été théorisé comme ça? Ou est-ce qu'ils appliquent ces recettes sans même savoir que ça relève de ce cynisme-là?
Ça
s'empêcher de se poser la question.
Ça supposerait une enquête sur les canaux de transmission. Dans le cas de la firme dont je parle, Pagan International est devenu, a fusionné avec Strafor dans les années 2000. Le nom est un petit peu connu parce que ça a été mis en lumière par le hacker Jeremy Hammond qui a leaké des milliers d'emails, j'en cite quelques-uns dans le livre, sur Internet. Dans ce cas-là, c'est une transmission familiale. Enfin, c'est de père en fils. Quand on va voir dans ces archives-là, ce qu'on trouve, c'est des PowerPoint monnayés 15 000 dollars à des firmes contemporaines sur le gaz de schiste, par exemple, qui sont la reprise par le fils Mongoven de la petite typologie que je viens de vous exposer. Ouais. C'est des gens aussi, ça a l'air d'être extrêmement puissant. En réalité, c'est une PME de la contre-insurrection qui recycle le même discours sur 40, 50 ans et qui ne gagne pas à tous les coups.
Oui, peut-être qu'il ne faut pas surestimer, mais c'est vrai qu'on pense à chaque négociation, justement tout ce qu'il y a autour du dialogue social, enfin on se dit le piège du dialogue social, on va négocier avec la CFDT, les réalistes, et on va disqualifier la CGT, par exemple, comme étant radicale. On a l'impression de revoir vraiment les mêmes recettes, c'est assez perturbant.
Le dialogue, c'est un point très important, parce qu'il y a une chose qui a été oublié, qui est peu mentionné dans les histoires officielles de la responsabilité sociale des entreprises telles qu'on l'enseigne dans les écoles de commerce, dans les business schools, c'est que l'une des premières publications sur ce thème aux États-Unis a été parrainée par Edward Bernays, l'auteur de Propaganda, le neveu de Freud, qui voyait une voie utile pour défendre le capitalisme menacé par ses ennemis. Or, dans les années 70, il est de plus en plus clair que la propagande, c'est-à-dire cette idée d'un message vertical qui va créer du consentement dans un public malléable, ça ne marche plus tant que ça. Bien sûr, la publicité va demeurer. Mais on a le constat sous forme d'autocritique des Mad Men, que ce modèle monologique dysfonctionne, ne marche plus aussi bien qu'avant. Pourquoi ? Ils le disent, les gens ont appris à se méfier. Il faut autre chose. Et cette autre chose, ça va être la création d'un autre courant des relations publiques, qui est celui des relations publiques dialogiques. Et on va opposer à l'ancienne idole monologique de la propagande, qui est verticale, méprisante, le dialogue, qui co-construit du consensus entre les parties prenantes, qui est fondé sur la participation, l'écoute de l'autre, tout un ensemble de vertus. Des textes géniaux aussi, où on cite Socrate, Kant, tout ça en se mélangeant les pinceaux allègrement. Voilà. Le versant... On connaît cette logorée insupportable. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est que le versant philosophant de cette affaire-là est à mettre en rapport avec son versant barbouze, avec son versant stratégique. Ouais. Parce que si on reprend les conseils de Pagan au moment de l'affaire Nestlé, il a mis en œuvre une stratégie de dialogue. Mais dialogue pour ne jamais négocier. Il ne s'agissait pas de négocier. Disons, à partir de là, je crois que il faudrait faire aujourd'hui non pas une critique qui analyserait la production de l'idéologie dominante, mais qui se pencherait sur la production de la dialogie dominante. Et j'essaye de montrer quelles sont, théorisées par ces stratèges, les fonctions politiques du dialogue. Alors, la première, c'est le renseignement. On peut citer le parrain, hein, garde tes amis près de toi, mais tes ennemis plus près encore. Savoir ce que les gens, les groupes adverses, ont prévu, savoir aussi comment ils pensent. Fonction de cantonnement. Il s'agit de dialoguer dans des enceintes à huis clos. Il y a un aspect topographique. Pas sur la place publique. Priver l'adversaire d'une de ses armes principales, qui est la publicisation des problèmes. Le faire entre gens de bonne compagnie. C'est Montesquieu qui disait, dans un passage sur la guerre civile, les chefs s'entremettent s'ils sont en petit comité. D'autres fonctions encore. Fonction de cooptation, théorisée comme telle. Offrir aux anciens adversaires de la légitimité, de l'argent, du pouvoir, en échange de leur désarmement. Fonction aussi très importante de disqualification. Si on érige le consensus dialogique comme idéal et norme des rapports entre l'entreprise et ses contestataires, alors il y aura ceux qui dialoguent et ceux qui sont exclus du dialogue. Il y a une fonction d'exclusion et de sélection. Ceux qui sont prêts à dialoguer, ceux qui respectent la démocratie, et les autres, qui sont à la rigueur hors du logos, hein, des barbares, sur lesquels la répression pourra d'autant plus s'abattre qu'on les aura présentés comme des gens qui sont hostiles à la forme du dialogue elle-même. Ouais. Et puis, fonction de légitimation, dialoguer avec, par exemple, une ONG qui a pignon sur rue, ça permet, par effet de capillarité, de capter du capital symbolique pour des entreprises qui en sont cruellement privées.
Alors pour finir, on va parler de la dernière cible de ces intellectuels des classes dirigeantes. Cette cible, c'est la démocratie ou les États. Ces États qui, quand ils sont démocratiques, justement, ont toujours ce risque de céder aux demandes du corps social, que ce soit en termes de redistribution des richesses, en termes de régulation ou en termes de services publics. Alors, vous montrez plein de manières différentes dont ils vont trouver pour limiter les risques de la démocratie. On va retrouver encore toujours ce même dispositif qui est faire peser les marchés, de même qu'on a fait peser la concurrence, l'insécurité du marché sur les travailleurs en les mettant en concurrence s'il y a plus de chômage, de même qu'on a pu faire peser le marché et la concurrence sur les managers pour qu'ils aient peur d'une OPA. Pareil pour les États, on va les rendre plus dépendants vers les marchés financiers pour se financer, pour financer leur budget. Donc on retrouve toujours ça. Mais il y a un autre point que vous développez, sur lequel je voudrais vous entendre là, parce que ça vraiment, j'avais jamais entendu ça expliqué comme ça. C'est l'idée que plutôt que de mener la bataille des idées, de mener la propagande, là, comme vous disiez, c'est moins efficace, et puis surtout c'est moins efficace quand c'est pour dire aux gens on va baisser vos salaires ou on va casser vos droits. Plus efficace que la propagande, ça va être la micropolitique ou les micropolitiques de l'ingénierie sociale pour mettre en œuvre des réformes impopulaires, néolibérales. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste cette micropolitique ?
Le texte important pour mieux saisir le rapport à l'État, puisque c'est ça qui est posé, c'est celui de la commission trilatérale 1975, ce fameux rapport sur la crise de gouvernabilité des démocraties, dans lequel Samuel Huntington, vous le connaissez de sinistre mémoire pour avoir été l'auteur du texte sur le choc des civilisations, était un des contributeurs de ce rapport. Il signe la partie sur les États-Unis. Alors, crise de gouvernabilité des démocraties, qu'est-ce que cela signifie ? Plusieurs choses. D'abord, dit Huntington, qu'il y a un déferlement démocratique, un tsunami démocratique. Des groupes, dit-il, autrefois passifs, inorganisés, marginaux, se mettent à revendiquer leur droit à participer à égalité, voire plus qu'à égalité, se désole-t-il, aux décisions qui les affectent. Les travailleurs, les femmes, les noirs, les latinos, on est aux États-Unis. Et ça, ça produit plusieurs effets dont il ne se réjouit pas. Hein. Le premier, c'est quoi? C'est une érosion généralisée de l'autorité. Dans les entreprises, à l'université, dans les familles, l'autorité partout craque. L'égalité met en péril l'autorité. Et le néoconservateur qu'il est, ça l'inquiète au plus haut point. Deuxièmement, c'est très inquiétant parce que, dit-il, ce déferlement démocratique met en péril le bon fonctionnement de la démocratie qui a toujours présupposé la condition antidémocratique d'une limitation de la participation des subalternes. Alors, historiquement, factuellement, c'est à peu près vrai, oui. La démocratie grecque était fondée sur la condition antidémocratique de l'exclusion des femmes, des esclaves et des étrangers. La démocratie patriarcale était fondée sur l'exclusion antidémocratique des femmes. La démocratie esclavagiste était fondée sur la condition antidémocratique de l'exclusion des Noirs. Mais il en fait, voyez, de cette réalité factuelle contre laquelle ont lutté les mouvements d'émancipation démocratique, il en fait, d'un point de vue normatif, la condition du bon fonctionnement de la démocratie. L'argument, au fond, c'est que trop de démocratie tue la démocratie. Jacques Rancière, dans « La haine de la démocratie », a commenté le ressort de cette idée réactionnaire. En réalité, dans la formule « trop de démocratie » au sens 1 tue la démocratie, c'est deux homonymes. Ce que l'on veut dire, c'est que la démocratie mouvement menace l'ordre de la démocratie gouvernement, institution. Et ça, c'est le troisième point. S'interroger sur la crise de gouvernabilité de la démocratie, comme la formule grammaticale l'indique, c'est non seulement s'interroger sur la capacité que l'on a à gouverner les sujets, mais surtout, et avant tout, à gouverner le gouvernement lui-même. L'idée qui se fait jour, c'est que le gouvernement, la démocratie-providence d'après-guerre, est devenue elle-même ingouvernable. Ça veut dire quoi ? Enfin, face aux contestations, l'État n'est pas pris de paralysie, mais au contraire, d'une sorte d'hyperactivité. On régule, on taxe, on intervient, à tour de bras. Rendez-vous compte, on a même rendu obligatoire pour les constructeurs automobiles la ceinture de sécurité, les filtres dans les pots d'échappement. Où va-t-on ? Nos profits sont en danger, notre liberté même d'entreprendre l'est. Donc il faut mettre un coup d'arrêt à ça, à cette gouvernite aiguë, comme dit Hayek, à cette expansion du gouvernement, expansion qui, vue par eux, enclenche une sorte de spirale qui mène droit au désastre. Plus vous lâchez, plus vous faites des concessions qui permettent, par approfondissement du rapport de force, aux subalternes de lutter. Plus vous leur donnez des concessions, plus leurs demandes augmentent, plus elles sont frustrées. Cycle infini. Autrement dit, et encore une fois, c'est dit explicitement par ces auteurs, le problème, sinon on va dans le mur, c'est de limiter la démocratie. Ça, c'est la formulation de Hayek, limiter la démocratie, détrôner la politique. Comment faire ça ? Plusieurs options sur la table. La première idée, c'est celle de Huntington, que dans une situation économique où on va rentrer possiblement, ils en ont conscience, dans un cycle Kondratiev récessif, c'est-à-dire un demi-siècle au moins de faible croissance, on ne pourra plus faire face à des demandes sociales qui sont extrêmement fortes et qu'on ne pourra se sortir de cette contradiction que par des formes d'État autoritaire. Huntington écrit « La face la plus sombre de la société post-industrielle sera sa face politique », pronostic assez glaçant. La première option, c'est celle que, à gauche, à la même époque, Nikos Poulantzas caractérise comme l'étatisme autoritaire social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait, 76, hein, il dit ça, à la fois une restriction des libertés démocratiques formelles, d'un côté, et de l'autre, une mise sous le boisseau, une emprise sur la société et l'économie par un État interventionniste, voire dirigiste. Les deux à la fois. Et à vrai dire, c'est bien l'option que partage Huntington à la même époque. Une option néoconservatrice dirigiste. Ce que ne voit ni Poulantzas ni Huntington, c'est l'option néolibérale qui va arriver. Il ne la voit pas. Alors, des charges, c'est une option parmi d'autres sur la table. Mais ce n'est pas forcé que ça passe par là. Hein. Voilà. Alors, dans les options néolibérales, qu'est-ce qu'on a? Deux grandes, pour schématiser. La première, elle est terrible, c'est l'option Pinochet. Hein. Le coup d'État contre le gouvernement socialiste d'Allende en 1973, qui est défendu par toutes les grandes figures du néolibéralisme à l'époque, ceci en connaissance de cause. Ils connaissent, en tout cas Hayek, on en est sûr, les rapports d'Amnesty. En 3 ans, on parle de 100 000 personnes emprisonnées, au moins 5 000 exécutions, des exilés. Et ils s'y rendent. Friedman rencontre Pinochet à 2 reprises pour lui parler, on le sait par Naomi Klein, de thérapie du choc. Hayek s'y rend également et rencontre aussi à son tour le dictateur pour lui parler, on va y revenir, de forme de constitution. Et la société du Mont Pèlerin, berceau et avant-garde du néolibéralisme, tient tranquillement colloque dans la charmante station balnéaire de Viña del Mar en 1981 au Chili. Ça, c'est la première option, celle de la dictature militaire néolibérale qui applique la stratégie de guerre préventive aux ennemis de l'intérieur. Alors, je cite dans le livre les interviews que Hayek donne à la presse chilienne, qui franchement valent le détour, pour ceux qui penseraient encore que Hayek, c'est un partisan d'une sorte d'anarcho-capitalisme, on en revient. Enfin, l'idée selon laquelle les courants dominants du néolibéralisme seraient animés d'une phobie d'État unilatérale, elle est fausse. Et si on pense ça, on ne comprend pas, les phénomènes actuels. Ce que dit Hayek dans ses interviews, c'est « Je suis favorable, dans certains cas, en gros, quand on est acculé, quand il y a une menace socialiste imminente, je suis favorable à une dictature de transition, une dictature néolibérale de transition, une sorte de théorie de la dictature de la bourgeoisie. Et deuxièmement, je préfère un dictateur libéral à une démocratie qui ne l'est pas libérale. » Mais il va plus loin, hein, il va beaucoup plus loin. Il dit que dans ce cas-là, il peut y avoir compatibilité entre libéralisme et dictature. Or ça, c'est quand même curieux. Ça correspond mal à l'image qu'on se fait de sa doctrine. Et par ailleurs, il n'a cessé de répéter, mais les deux énoncés sont cohérents pour lui, qu'il rejetait, et c'était le sens de son engagement philosophico-politique, il refusait les forces coercitives du gouvernement. Alors comment est-ce qu'on tient ensemble ces deux énoncés? Parce qu'il va encore plus loin. Il dit... La liberté personnelle peut être mieux préservée, mieux garantie sous un régime autoritaire que sous une démocratie. Et pourtant, à l'évidence, sous Pinochet, les libertés personnelles étaient loin d'être garanties. Les libertés politiques, celles de rassemblement, de se présenter aux élections par exemple, n'étaient à l'évidence pas assurées. Les libertés et les droits civils élémentaires, qui contiennent par exemple... ne pas être soumis à des arrestations ou à des exécutions arbitraires, à l'évidence, n'était pas respecté. Alors, comment est-ce qu'il peut dire ça? Ça présuppose, vous voyez, qu'on ait redéfini en amont ce que la liberté veut dire. Ce que veut dire Hayek, c'est que dans ce cas-là, la liberté fondamentale, conçue comme liberté économique, comme libre disposition sans interférence étatique de leur propriété par les possédants, elle est garantie. On nous présente le libéralisme comme une défense de la liberté, et puis le reste, ce serait l'égalité. Non, ce n'est pas la liberté en bloc. Quand la liberté économique des possédants achoppe avec les libertés politiques, la première doit l'emporter, et dans ces situations, en dernière extrémité, jusqu'au soutien de la dictature. Ça, c'est la première option. Mais, et il faut les prendre au sérieux quand ils disent ça, Hayek et Friedman ont dit avec constance que pour eux, Pinochet, c'était l'exception et pas la règle. C'est pas le premier choix. C'est pas le premier choix. Il y a d'autres formes de libéralisme autoritaire possibles que celle-là, que la dictature néolibérale de transition. Le problème, il est assez simple, enfin, dans sa formulation en tout cas, mais il faut être assez inventif pour y trouver des solutions. Comment est-ce que vous pouvez limiter la démocratie, détrôner la politique, et faire ça de manière plus feutrée qu'à grand bruit de bottes, et faire ça autrement qu'avec un fusil sur la tempe, et le faire de l'intérieur même de régimes démocratiques? Hayek appelle ça la démocratie limitée, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il parle de l'Amérique de Carter, de la France de Giscard. Ça en dit long quand même, hein, sur ce qu'il entend par démocratie, quel est le concept là derrière. De penser que ces régimes-là sont de la démocratie limitée, ça veut dire que la marge est étroite, hein, quand même. Bon. Comment faire? Alors, Hayek dit il faut lire mes derniers livres comme un outillage, une trousse à outils destinée à nous éviter de choisir la solution de la dictature. C'est une intention très louable. Hein. Enfin, ce qu'on devine aussi entre les lignes, c'est que si vous n'acceptez pas la manière douce, vous aurez la forte. Hein. Bon. Limiter la démocratie, je donne la stratégie principale, mais il y en a d'autres. Ça va passer par un procédé ancien et très classique qu'on a oublié, dit Hayek. On a très longtemps cru que c'était impossible de le faire. Parce qu'on a oublié, dit-il, qu'il existe des règles de long usage que personne n'est en pouvoir de modifier ou d'abroger. Bon, Hayek, ce n'est pas toujours très clair, et pas toujours très fluide à l'écrit. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a des constitutions. Il y a des constitutions, autrement dit, les gouvernements n'ont pas toute latitude de décision. C'est borné par des textes de niveau normatif supérieur, des méta-règles, des règles sur la décision gouvernementale. Pour le libéralisme politique classique, ces règles constitutionnelles, elles servent à limiter les pouvoirs coercitifs de l'État, principalement. Pas seulement, mais principalement. L'idée de Hayek, c'est d'utiliser cet instrument de limitation méta-normatif pour constitutionnaliser l'économie. Je passe les détails sur la constitution qu'il propose, et elle connaît différentes déclinaisons et différentes formes. Quel est l'enjeu? Quel est l'objectif? Il l'écrit clairement. Avec la constitution que je propose, l'effet serait de rendre impossible toutes les mesures socialistes de redistribution, et sans aller jusque-là, toute intervention de l'État dans un sens d'une redistribution économique plus égalitaire, sous le verrou constitutionnel, sous la constitutionnalisation de l'économie. Quel est l'interdit? C'est l'interdit de toucher à l'ordre spontané des inégalités sociales.
Alors là, on pense forcément à l'ordolibéralisme européen, à tous les traités européens qui empêchent la Grèce, par exemple, de faire des choix anti-austéritaires, par exemple.
Oui, d'autant que Cédric Durand, dans sa préface à « En finir avec l'Europe » aux éditions La Fabrique, montre que Hayek, dès avant la Seconde Guerre mondiale, associe cette idée d'un verrou constitutionnel à une perspective fédéraliste, hein, avec une sorte d'éclatement de la souveraineté, une dévolution par le bas dans des petites unités territoriales qui seraient mises en concurrence sur un marché, et d'étirement vers le haut avec des verrous constitutionnels fédéraux sur les politiques gouvernementales. Donc oui, le projet européen est à l'évidence dans cette philosophie. Ouais. Il y a d'autres procédés, mais ça, en gros, c'est les deux modalités, dictature néolibérale ou verrou constitutionnel. C'est une solution à quoi? C'est une solution au premier volet de la crise de gouvernabilité des démocraties telles que théorisées par les néoconservateurs. La solution au problème qui était analysé comme une trop grande vulnérabilité des gouvernements aux demandes populaires, c'est comme Ulysse, attacher le gouverneur ou le commandant du navire à son mât pour qu'il ne puisse pas être trop sensible aux appels des sirènes. Bon. Mais c'est qu'en volée de la solution. Parce que l'autre problème, il reste entier. Dans le tableau qu'on a brossé ici, les revendications populaires, elles existent, elles sont fortes. Celles-là, comment parvenir à les neutraliser ? Verrou par le haut, mais quoi par le bas ? Alors, là encore, élaboration tactique et stratégique. On pense évidemment à la répression policière qu'on subit encore aujourd'hui. Bon. J'en parle peu dans le livre, et je m'intéresse à des tactiques et des stratégies moins évidentes, plus fines et moins documentées. L'une d'entre elles, c'est la micropolitique de la privatisation. Ce terme-là, il a été forgé, cette expression, par un petit groupe de néolibéraux qu'on appelle le groupe de Saint-Andrews, du nom de l'université écossaise dans laquelle ils avaient fait leurs armes. Petite branche du néolibéralisme, qui, eux, se pensent comme, non pas comme des grands idéologues, des tribuns, pas du tout, mais comme des ingénieurs. Hein, des gens qui vont voir les pratiques de près, finement. C'est des gens importants parce qu'ils ont été conseillers de Thatcher en Grande-Bretagne et de l'administration Reagan, ensuite aux États-Unis. Ils se vantent dans leurs textes d'inventer des dispositifs qui marchent. Et ils commencent leurs exposés par une critique de leurs petits camarades. Une critique de ce que font les néolibéraux à la fin des années 70 quand ils entrent en politique. En leur disant, c'est pas la bonne manière de faire. C'est pas la bonne stratégie. Là, franchement, vous êtes en train de vous planter, en gros. Alors pourquoi ? Le constat, c'est, alors même que des gouvernements conservateurs parviennent à remporter les élections, donc à obtenir un consentement, consentement suffisant pour accéder au pouvoir, en tout cas, ça bloque, ça patine. On n'arrive pas à réformer, ou plutôt à contre-réformer, aussi vite qu'on le voudrait. Le traumatisme pour ces gens-là, c'est Heath en Grande-Bretagne, le gouvernement conservateur qui se casse les dents sur une grève des mineurs et qui, suite aux élections anticipées, perd le pouvoir. Pourquoi ça bloque ? Et pourquoi il n'y arrive pas ? Il liste une série d'erreurs des néolibéraux en politique. Première critique, il croit trop en la bataille des idées. Ils pensent qu'il suffirait de faire une sorte de contre-bourrage de crâne, de persuader les gens de la validité du programme libéral en économie pour que le reste suive. Mais ils se trompent. Ils se trompent, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils se trompent, disent-ils, parce qu'ils n'ont pas une conception adéquate des rapports entre théorie et pratique. Vous voyez, ça c'est un vocabulaire marxiste. Mais ce n'est pas un hasard, parce que Mazen Piri, qui est l'un de leurs chefs de file, a lu et cite Lénine, un véritable homme d'action, dit-il, Che Guevara, un héros, un vrai héros. C'est l'émergence assez étrange, quand même, d'un style bolcho-libéral en politique. Alors, mauvaise conception des rapports entre théorie et pratique, c'est qu'il faut faire tout l'inverse. Ce n'est pas d'abord bourrer le crâne des gens et ensuite ils changent leur manière de faire. Non, il faut aller modifier les conditions même de l'action et des choix, et ensuite le reste suivra. Changer les pratiques, les idées et les conduites politiques suivront. Première critique. La seconde, c'est que les néolibéraux ne sont pas cohérents. Il y a une incohérence entre ce qu'ils professent en économie et ce qu'ils font en politique. En économie, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent microéconomie. Agent rationnel, micro-choix, à analyser, à modéliser avec des équations en perte de vue. Dès qu'ils font de la politique, qu'est-ce qu'ils disent ? Macro-slogan. Finissons-en avec l'État-providence, coupons les services publics. Ça colle pas. Ça colle pas. Il faut, au contraire, disent-ils, trouver l'équivalent pratique de l'analyse microéconomique, et ils appellent ça la micropolitique. Non pas y aller à la serpe avec des gros slogans qui sont inefficaces politiquement, mais construire une micro-ingénierie du choix qui vise à transformer les conditions de la décision au niveau des individus que nous sommes, vous et moi.
Par exemple.
Par exemple. Ces gens-là sont des... sont pas tellement, enfin, moins des théoriciens que des techniciens. Ils rédigent des manuels de privatisation. Madsen Piri liste pas moins de 22 techniques de privatisation, un petit peu à la Machiavel, ou comme Fronte, hein, le grand auteur de l'Antiquité, qui liste les stratagèmes, les ruses de guerre. Bon, 22. Je ne vais pas vous les faire toutes les 22, mais quelques-unes sont intéressantes. Une première approche, c'est ce qu'il appelle le micro-incrémentalisme. Alors, un exemple de micro-incrémentalisme, c'est ouvrir un secteur à la concurrence, par contraste avec dénationaliser en bloc. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais non, on ne va pas privatiser. L'État, juré craché, va rester le seul actionnaire. Hein. En revanche, on ouvre le secteur à la concurrence. Et l'exemple qu'il donne, c'est la déréglementation en 1980 par une Margaret Thatcher fraîchement élue du système de bus interurbain britannique. Les bus Thatcher, hein, ça vous rappelle rien ? Bon. Mais alors, pourquoi ce procédé est habile ? Je fais un petit peu leur pub, mais pour mieux les combattre. Eh bien, disent-ils, dans ce cas-là, ce sont les gens eux-mêmes, par leur porte-monnaie, par une multitude de micro-choix agrégés, prendre le bus Thatcher plutôt que le train, par exemple, qui vont modifier la situation pour un résultat qui aboutira à l'équivalent d'une privatisation sans qu'on ait eu à nationaliser d'un bloc, et donc en évitant, non pas toute confrontation sociale, mais en évitant une confrontation centrale de très 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 grande ampleur. Alors, autre exemple de ça, autre tactique, qui consiste à acheter l'adversaire. Exemple, on veut privatiser British Airways. Sur la sellette, 20 000 postes. Comment vous faites? Si vous licenciez tout le monde, d'un bloc, il y aura un mouvement social possiblement très dur et coûteux politiquement. La tactique, c'est d'offrir un chèque correspondant à 2 ans de salaire, en échange de départs volontaires, bien sûr, anticipés. Vous voyez, là, la tactique, elle consiste à faire jouer un gain immédiat, comme un leurre, qu'on va échanger contre un avantage de plus long terme que l'on aurait pu conserver si on avait lutté pour le défendre, plutôt que de le brader contre un avantage immédiat illusoire. Mais ça, ça ne marche pas simplement... dans ce cas de figure, ça ne marche pas simplement dans le fait que vous vendiez ce que vous avez. Vous pouvez aussi amener les gens à vendre non pas leurs avantages, mais ceux des autres. Exemple, on veut réformer un statut. Il faut dire, votre statut, à vous, on n'y touchera pas. On va toucher simplement au statut des nouveaux entrants. Et alors, on dira, mais pourquoi vous mobiliseriez-vous pour une mesure qui ne vous concerne pas? Pourquoi vous mobiliseriez-vous politiquement pour une mesure qui ne vous touche pas à vous personnellement? Ça connaît bien des déclinaisons, c'est eux qui le disent. Hein. Les loyers. Situation où vous avez un plafonnement, une régulation des loyers. Que faire pour déréguler le marché locatif? Soit vous changez les conditions pour tout le monde d'un coup, macro-politique néolibérale. De fortes chances pour que ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Ou alors, vous dites, les locataires actuels, leur contrat reste inchangé. Par contre, les nouveaux entrants, eux, leur bail sera modifié avec des conditions moins avantageuses. Et au final, disent-ils, d'ici 10, 20, 30 ans, on aura le même résultat. Mais on n'aura pas été obligé de perdre du capital politique et d'avoir eu un affrontement central. Et ça vaut aussi pour les retraites, même technique. Si vous voulez réformer les retraites, prenez bien soin de dire que les modifications ne toucheront personne qui partira à la retraite avant la fin du siècle, on est dans les années 80. Ils écrivent texto, c'est une technique qui consiste à ce que les gens nous vendent les générations futures. Et là, je crois qu'on a, sur ces exemples, l'esprit générale de ce type de procédé, vous voyez, modifier la société par petits bouts, pas besoin d'y aller à la hache pour casser une poutre, si 1000 petites bouches de termites sont en train de la ronger en permanence. Ne surtout pas poser aux gens la question, la grande question du choix de société. Quelle société voulez-vous? Non. Dissoudre cette question du choix de société dans une société du choix, dans une infinité de micro-choix. Et alors, le paysage d'ensemble, on le verra peut-être ensuite en prenant du recul, mais il aura été modifié par une activité de choix à courte vue. Ne regardez jamais plus loin que le bout de votre nez. Ça ne vous concernera pas, à vous, juré promis. Vous vous passerez entre les gouttes et après vous, le déluge. Je crois que, pour conclure de manière plus générale, en tant qu'idéologie, le néolibéralisme, c'est assez nul, et ils le savent. Je cite Milton Friedman qui dit, sur le mode de l'autodérision, mais le néolibéralisme, et c'est pas le moindre des paradoxes, c'est pas très vendeur. Oui, c'est vrai. En quoi c'est efficace? C'est efficace en termes de technologie politique, et plus précisément de ce que j'appelle une éthonomie. C'est-à-dire faire en sorte que les mœurs soient ce qu'ils doivent être du point de vue qui est le leur. Il faut bien prendre la mesure que ce qu'on a en face, c'est une stratégie d'altération des manières de penser et d'agir, de se penser soi-même et de se comporter avec les autres. C'est une attaque qui se joue par la micropolitique à un niveau anthropologique. Et tel est l'enjeu aujourd'hui.
Alors, le problème, c'est qu'on voit à quel point ça a été efficace, on le voit encore là, avec le, vous parlez de statut, forcément on pense à la SNCF par exemple, le statut des cheminots, enfin, on l'a vu en fait appliqué en France. Donc on est un peu démunis à la fin du livre, hein, parce que de toute façon c'est pas l'objet de votre livre de dire comment faire. Vous, déjà c'est pas mal de comprendre comment nos adversaires ont procédé. Mais est-ce que on pourrait quand même avoir quelques pistes est-ce que une des pistes, c'est justement reposer les grandes questions, ne pas se laisser refuser de se laisser enfermer dans des faux petits choix et reposer les grandes questions de société. Vous dites aussi que en guise de conclusion, qu'en fait, leur vraie bête noire, en fait, c'est la démocratie, et surtout la démocratie en économie, c'est-à-dire l'autogestion, que donc, ça, c'est une des pistes à creuser. Mais voilà, finalement, on n'a pas grand-chose, mais est-ce que c'est par là que vous nous encouragez à chercher pour ne pas être juste complètement abattu par...
Non, il ne faut pas être abattu. Il ne faut pas être abattu, c'est pas du tout le propos du livre. Il y a une belle interview de Deleuze sur Foucault, elle est dans le recueil « Deux régimes de fous », où il dit il y a deux manières de penser la société. Il dit, pour Foucault, je crois que l'étonnement, c'était il y a tout ce pouvoir, et malgré tout, ça arrive à résister. Et Deleuze dit, à choisir, moi, ce serait plutôt l'inverse. Mon étonnement, ce serait plutôt de notre type. Mon étonnement, dit-il, c'est que ça fuit de partout, et ils arrivent à peu près en face à colmater. Vous voyez ? Moi, mon étonnement, c'est plutôt celui-là. Et franchement, à lire tous ces textes, je crois que, du point de vue des classes dominantes, l'étonnement, c'est celui-là. C'est pas comment arrive-t-il à résister alors qu'on est si puissant, c'est, mon Dieu, mais... comment est-ce que ça ne se pète pas la gueule plus vite? Et ça, c'est une leçon. Alors, stratégique, c'est pas. Je suis pas en train d'écrire que faire avec ma barbichette. Ouais. Hein, voilà. Mais c'est une leçon, je pense, même affective très importante. Ouais. C'est fragile. Moi, je pense qu'il faut prendre tout ce que ces penseurs de là, des années 70, disent et le prendre très au sérieux. Ils disaient quoi? Ils disaient le capitalisme a atteint son crépuscule. C'est terminé. On est foutu. Ils avaient raison. Ils avaient raison, et si vous lisez les analyses de Wolfgang Streck, ce qui s'est produit depuis, c'est une prolongation, pour le pire, un sursis accordé par le système à lui-même, mais sursis au cours duquel les contradictions déjà présentes se sont accentuées à un point où c'est devenu intenable. Enfin, reprenons, on va dire, oui, ils ont gagné, mais quel est le bilan de la victoire ? Le néolibéralisme comme politique et programme de redistribution oligarchique de la richesse, ça a fonctionné, mais au mépris de la sagesse ou de la prudence politique la plus élémentaire, ce que tous les penseurs politiques ont dit depuis la modernité, à commencer par le chancelier Bacon, texte sur les séditions. Quelle est la principale cause de séditions ? C'est le niveau des inégalités. Si Bacon a raison, il y a un sérieux souci à se faire. Sur la question écologiste, on n'en a pas assez parlé, mais il y a une prise de conscience écologiste très précoce. On freine, on bloque. Ça marche, oui, victoire, mais victoire pour quoi ? Pour l'effondrement écologiste actuel. La financiarisation, dont on peut montrer que c'est à la fois une source de profit, mais aussi un opérateur de gouvernement avec une croyance quasi métaphysique ou théologique dans la fiabilité cybernétique des marchés, où on en est aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout économiste, mais si vous lisez des avis d'obédience très diverses, on s'accorde à peu près pour dire que le scénario d'un effondrement du système financier mondial par accumulation des dettes est un scénario hautement probable. Donc, ce livre ne fait pas le tableau d'un grand triomphe, d'une domination absolue, d'un pouvoir omnipotent dans lequel il n'y aurait plus rien à faire. Je cite un texte dans le livre qui est celui d'un sociologue marxiste des années 70, un grand sociologue du travail, Michael Burawoy, qui publie un livre en 79 qui s'appelle « Manufacturing Consent », donc la fabrique du consentement. Sa thèse, c'est « Le consentement se produit à l'échelle de l'usine, de l'entreprise », il reprend une thèse de Gramsci, etc. Et il démontre, on lit ça, ouais, bon, ça, par A plus B, ça marche, et la domination est implacable. Mais il le dira plus tard, il le reconnaîtra. Il écrit ça alors même que tout ce que je vous ai dit était en train de se passer. Tout était en train de se casser la gueule, de se lézarder dans son dos. Il ne le voyait pas. Mon livre est un livre sur le passé. Je décris la genèse d'une reprise en main. Mais mon espoir secret, mon pari, c'est que le récit de cette genèse soit en réalité, parce que la philosophie, on le sait bien, arrive toujours trop tard avec sa chouette de Minerve qui se lève au crépuscule, que ce soit aussi le récit de cette genèse, en réalité, une autopsie de quelque chose qui est appelé à être dépassé. Pour conclure là-dessus, comme piste métastratégique générale, prendre au sérieux ce qu'il disait, c'est la tâche urgente aujourd'hui de penser la transition, pas juste écologique, la transition post-capitaliste.
Merci.
Merci à vous.